Chères auditrices, chers auditeurs, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Que le Saint-Esprit nous guide et nous éclaire dans notre objectif de ce jour, à savoir nourrir notre âme avec l'enseignement de la parole de Dieu. Le sujet qui est l'objet de notre étude depuis plusieurs mois maintenant est l'Église de Jésus-Christ. Rappelons ici ce qui a été dit en introduction. L'Écriture sera pour nous la référence, le fondement de notre foi, comme cela est proclamé dans cette expression « sola scriptura »,« sola fide » et « soli deo gloria ». Lors d'une conversation, une personne affirmait un point de vue qui, à ses yeux, ne souffrait aucune remise en cause, et l'argument sur lequel elle fondait ses certitudes était celui-ci, je cite, « Un saint homme de Dieu m'a dit ». Ce à quoi ma réponse a été « Je ne doute pas un instant du qualificatif par lequel vous désignez cet homme de Dieu. Toutefois, permettez-moi de préciser que ce qui vous a été dit ne correspond pas à ce que la parole de Dieu déclare, à ce qui est écrit. » S'adressant aux chrétiens de la Galatie, l'apôtre Paul leur écrira ceci. Je lis. Galates chapitre 1, verset 6 et suivant. Je suis stupéfait de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de Dieu. Il vous a appelé par la grâce du Christ et vous, vous regardez à une autre bonne nouvelle. En réalité, il n'y en a pas d'autre. Il y a seulement des gens qui vous troublent et qui veulent changer la bonne nouvelle du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même si c'était nous ou un ange venu du ciel, vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit maudit. Eh bien, l'apôtre n'y va pas de main morte, si vous me permettez l'expression. Notons ceci. Il n'hésite pas à se mettre en cause, ainsi que ses compagnons, voire d'autres prédicateurs. On comprend facilement pourquoi il n'a pas été contrarié ou vexé par l'attitude des Juifs religieux dans la ville de Bérée. En effet, il est écrit les concernant qu'ils avaient de meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour vérifier l'exactitude des propos de Paul. Oui, ils prenaient soin de vérifier si ce que Paul leur disait était exact. Attitude sage et nécessaire, même à l'égard de ce que vous entendez de ma bouche. Notre responsabilité, comme le précise Paul à Timothée, c'est d'annoncer correctement la parole de la vérité. Car, attention, certains prédicateurs, pensant qu'il suffit d'affirmer haut et fort ce qu'ils disent, tentent d'imposer leur point de vue, parfois même à grand renfort d'expressions telles que « la Bible dit » ou « il est écrit ». Nécessité donc, je le répète, de vérifier dans les Écritures, comme l'ont fait les Béréens, ce que nous entendons. Dans le chapitre 1er de sa lettre aux chrétiens de Rome, l'apôtre Paul fait mention, je cite, « des humains qui, par leurs mauvaises actions, étouffent la vérité ». Et l'apôtre de préciser, je cite encore, « ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercie pas comme il convient de le faire à son égard. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur esprit insensé a été plongé dans l'obscurité. Ils échangent la vérité concernant Dieu contre le mensonge. » L'apôtre Pierre, faisant référence aux écrits de son compagnon de service, l'apôtre Paul, mentionne ceci. Je lis 2 Pierre, chapitre 3, verset 15 et suivant. « considérez que la patience de notre Seigneur vous offre l'occasion d'être sauvés, ainsi que notre cher frère Paul vous l'a écrit, avec la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce qu'il a écrit dans toutes les lettres où il parle de ce sujet. Il s'y trouve des passages difficiles à comprendre. Des gens ignorants et instables en déforment le sens, comme ils le font d'ailleurs avec d'autres parties des Écritures. Ils causent ainsi leur propre ruine. Quant à vous, mes chers amis, vous êtes maintenant avertis. Prenez donc garde, ne vous laissez pas égarer par les erreurs de gens sans scrupules et n'allez pas perdre la position solide qui est la vôtre. Bible Français Courant. En reprenant les paroles de l'apôtre, bien-aimé, je vous dis donc, vous êtes maintenant averti. Certaines personnes, désorientées par la diversité des choses qu'elles entendent, viennent nous faire part de leur désarroi car, déclare-t-elle, on fait dire à la Bible ce qu'on veut. Non, pas du tout. Pour lui faire dire ce qu'on veut, il faut en tordre le sens. Mais la Bible, la parole de Dieu, a un message qui est clair. Nous ne chercherons pas à étayer nos conceptions sur le sujet par des textes tirés de l'Écriture, mais au contraire, nous allons laisser parler l'Écriture de sorte que nous dirons « Voici ce qui est écrit et c'est cela que nous croyons ». L'Évangile nous rapporte l'épisode suivant. Je lis dans Luc chapitre 10, versets 25 et 26, Bible Français Courant. Un maître de la loi intervint alors. Pour tendre un piège à Jésus, il lui demanda « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans notre loi ? Qu'est-ce que tu y lis ?» Oui, tout simplement, ce qui est écrit, ce que tu lis, répond à la question posée. Et en faisant cela, on constate que la Bible s'explique par elle-même, que les Écritures se complètent pour être une lampe devant nos pas, une lumière qui éclaire notre route. Un autre jour, Jésus a interrogé ceux qui le suivaient. Je lis dans Luc chapitre 6, versets 47 et 48, Bible du Semeur. « Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute ce que je dis et l'applique ? C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison. Il a creusé, il est allé profond et il a assis les fondations sur le roc. Quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison, mais elles n'ont pas pu l'ébranler parce qu'elle était construite selon les règles de l'art. La construction s'est avérée solide car, comme l'a expliqué Jésus, elle a été faite selon les règles de l'art, à savoir creuser, puis aller profond et asseoir les fondations sur le roc. Ainsi, comme l'écrit l'apôtre Paul aux Éphésiens, je cite, « Nous ne serons plus des enfants, ballottés, menés à la dérive à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leur astuce à fourvoyer dans l'erreur. » Le mois passé, nous avons évoqué les services de l'Église. Pour ceux que cela intéresse, le texte est disponible sur le site web de notre radio, FM Évangile 66, ou sur simple demande. Une précision pour ceux qui nous écoutent le dimanche à 8h30. Le message précité passera le 3 juillet et sera rediffusé le vendredi 15 juillet à 21h. Nous écoutons une page musicale.
Thank you.
poursuivons notre étude concernant les services de l'Église. En priorité, nous avons mentionné les services tournés vers le Père. Jésus, au bord du puits de Jacob, a dit à la femme samaritaine, je cite Jean chapitre 4, verset 23, « Mais le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité, car tels sont les adorateurs que veut le Père. Chaque croyant est un adorateur. » Puis, nous avons souligné la fonction d'intercesseur à laquelle chaque membre est appelé. Bien-aimé, vous pouvez trouver vous-même des sujets d'intercession après avoir pris comme modèle Abraham, Moïse, Samuel. Vous avez aussi l'exemple de Jésus et les pistes qu'il a indiquées, je cite, « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, priez pour vos ennemis, etc. » Après les services tournés vers le Père, nous avons mentionné les services tournés vers les hommes. Et en premier, nous avons cité le témoignage. Jésus a dit, « Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. » Actes chapitre 1, verset 8, Bible français courant. « Mes témoins, a dit Jésus, et non mes avocats. » Ce service peut être accompli même sans parole, car le « entre guillemets vécu » parle plus fort que les paroles. Voici ce que Paul écrit aux Corinthiens, je cite, « Vous êtes notre lettre de recommandation, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. » 2 Corinthiens chapitre 3, versets 2 et 3. Pierre écrit ceci, je cite, « Afin que si quelques-uns d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi par votre conduite. Des paroles ne seront même pas nécessaires. » 1 Pierre chapitre 3, verset 1er. Cela vaut aussi pour le cas où c'est l'épouse qui ne croit pas. Hélas, parfois, l'attitude du conjoint est contre-productive, car ses actes ne correspondent pas à ce qu'il dit être. Après le témoignage, nous avons mentionné le service de la prédication. Je lis, Actes chapitre 6, verset 4, Bible français courant. Nous pourrons ainsi continuer à donner tout notre temps à la prière et à la tâche de la prédication. D'autres versions traduisent par, je cite, le ministère de la parole. Le prédicateur doit annoncer la parole de Dieu, comme Paul l'écrit à Timothée, je cite, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprends et encourage. » 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Ce service de la prédication n'est pas confié à tous les membres du corps. Je lis 1 Corinthiens chapitre 12, versets 28 et 29. Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? À ces questions, la réponse implicite est non. Jacques apporte une précision, je cite, « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. » Chapitre 3, verset 1er. Je lis Éphésiens chapitre 4, verset 11. Celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dieu a donné les uns comme, cela signifie qu'il les a qualifiés pour le service d'apôtres, d'autres pour le service de prophètes, d'autres pour le service d'évangélistes et d'autres pour le service de bergers et enseignants. Tous ces prédicateurs, ainsi qualifiés, doivent, en donnant la nourriture de la parole de Dieu, contribuer à la croissance des membres de l'Église, cela en stature et en nombre. Le livre des Actes des Apôtres nous en donne un excellent exemple et aussi, disons-le, un excellent modèle, de sorte que nous conseillons vivement à toutes nos chères auditrices et à tous nos chers auditeurs de rechercher une église locale fonctionnant sur le modèle donné dans les Actes des Apôtres, ainsi que sur les enseignements adressés aux églises, précisons bien, enseignement formant pour nous les Écritures. La dénomination de l'Église locale ne peut être qu'une simple indication, tout comme l'étiquette apposée sur une bouteille ne garantit pas toujours la qualité du contenu. Pour ce qui concerne l'apôtre, nous avons distingué les 12, envoyés par Jésus, puis ceux qui ont été les envoyés des Églises. Pour ce qui est du prophète, nous avons distingué 3 catégories. Petit a, ceux de l'ancienne alliance. Ils sont mentionnés par Paul aux côtés des apôtres comme fondement de notre foi. Je lis Éphésiens chapitre 2 verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Petit b, ceux cités dans le texte de Éphésiens 4:11, mentionnés aux côtés des apôtres, des évangélistes et des bergers et enseignants. Dans leur service de prédicateurs, ils répondent aux besoins spécifiques de l'Église locale en apportant l'enseignement qui correspond à ces besoins précis. Ils en ont reçu révélation. La même réponse peut être apportée par connaissance de la situation, comme le souligne Paul en écrivant aux Corinthiens, je cite, « En effet, mes frères, des personnes de la famille de Chloé, m'ont informé qu'il y a des rivalités entre vous. » Puis je cite encore, « Au sujet de ce que vous m'avez écrit, que ce soit suite à une révélation ou par connaissance de la situation, la réponse apportée par la parole de Dieu sera la même. » Quelle bénédiction, quelle richesse pour l'Église d'Antioche, dont il est précisé dans Actes chapitre 13, verset 1er, je cite, « Il y avait à Antioche, dans l'assemblée qui était là, des prophètes et des docteurs. Des noms sont cités, Barnabas, Siméon, Lucius, Manaen et Saul, un collège de prédicateurs, car il y a complémentarité dans les services. Rappelons-nous, c'est là, à Antioche, que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Cela, comme une suite au service d'enseignement effectué par Barnabas et Saul, qui ont passé tous deux une année entière dans cette église et ont instruit dans la foi un grand nombre de personnes. Petit c, troisième catégorie de prophètes, ceux mentionnés dans les chapitres 12 à 14 de la première lettre aux Corinthiens. Paul y évoque les dons du Saint-Esprit et leur exercice pour le bien de l'Église. L'ignorance que Paul reproche aux Corinthiens n'est pas celle des dons eux-mêmes, car il les connaissait et les possédait, mais bien celle relative à leur emploi et de leur contrôle. Je lis, chapitre 14, versets 29 à 33, « Quant aux prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent. En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Le prophète ici mentionné est celui qui a reçu l'un des 9 dons spirituels définis par l'apôtre au chapitre 12. Notons ceci, je cite, « Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. » Chapitre 14, verset 3. « Et alors que tous ne sont pas appelés à être prophètes, dans le sens de prédicateurs, tous peuvent prophétiser et être ainsi aussi appelés prophètes, parce qu'ils auront donné une parole réconfortante. Toutefois, apportée dans le cadre des restrictions données, c'est-à-dire possibilité de prophétiser successivement, mais pas tous à la fois, 2 ou 3, lors d'une assemblée de l'Église. Sinon, désordre. Les dérives surviennent lorsque l'Écriture n'est pas respectée. Sous couvert faussement spirituel de déclarer, je cite, « Nous ne voulons pas museler le Saint-Esprit ». Or, le Saint-Esprit est celui qui nous amène à respecter l'Écriture. Un livre traite de ce sujet. Le titre en est « Les dons spirituels ». L'auteur, Harold Horton, publié aux éditions Viens et Vois. À ma connaissance, le meilleur livre sur ce sujet. Je vous en recommande vivement la lecture. Avec cette 3e catégorie de prophètes, nous sommes sur l'exercice des dons spirituels dont le but est l'édification de l'Église. Je lis 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12. Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ce qui édifie l'Église. Parmi ces dons, citons la capacité de prophétiser, c'est-à-dire de délivrer par le Saint-Esprit une parole qui encourage et réconforte. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Et tout comme les prédicateurs, la parole exercée par ces prophètes doit passer au crible des Écritures. Je lis 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 21. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Nous écoutons une nouvelle page musicale. Revenons aux prédicateurs. Je relis Éphésiens chapitre 4, verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Après l'apôtre et le prophète, nous avons l'évangéliste. C'est celui qui annonce l'évangile. Exemple chapitre 8, exemple, Actes chapitre 8, verset 11. Quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, Actes 21, verset 8, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, remarque, petit a, nous avons les écrits des quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, leurs auteurs étant donc les premiers évangélistes. Petit b, en vérité, tout croyant, quel que soit le ministère qu'il ait reçu du Seigneur, doit entre guillemets évangéliser, que ce soit sous forme du témoignage ou de la prédication. C'est un des facteurs de la croissance, entre parenthèses en nombre, de l'Église. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Actes chapitre 12, verset 24. Sans oublier que c'est le Seigneur qui ajoute, Actes chapitre 2, verset 47. On notera que le Seigneur, dans son infinie sagesse d'architecte, a donné un service, celui d'évangéliste, pour faire entrer les âmes dans l'Église, et quatre, apôtres, prophètes, pasteurs et docteurs, pour les, entre guillemets, garder et les nourrir. Les services sont complémentaires. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 et 7, Bible français courant. Au fond, qui est Apollos et qui est Paul? Nous sommes simplement des serviteurs de Dieu par lesquels vous avez été amenés à croire. Chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié. J'ai mis la plante en terre, Apollos l'a arrosée, mais c'est Dieu qui l'a fait croître. Ainsi, celui qui plante et celui qui arrose sont sans importance. Seul Dieu compte, lui qui fait croître la plante. Après l'évangéliste, nous avons le service de pasteur et docteur. C'est le service qui consiste à paître les brebis en leur enseignant tout ce que le Seigneur a prescrit. Sa qualification porte une double facette. Certains, en charge entre guillemets du troupeau, manifesteront le côté berger, tandis que d'autres, itinérants, seront plus spécifiquement des enseignants. Tels les nommés Zénas et Apollos, Tite, chapitre 3, verset 13. Ce qualificatif, pasteur, rapporté à des hommes, n'est évoqué qu'une seule fois dans tout le Nouveau Testament, tandis que la fonction, elle, est évoquée à maintes reprises avec le vocable « ancien ». Actes, chapitre 20, verset 17 à 28. Les anciens de l'Église. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire celui qui est chargé de veiller sur, pour paître l'Église du Seigneur. Actes chapitre 14, verset 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque Église. Tite chapitre 1, verset 5 à 7. Et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens. Remarque, petit a, ceux qui contribuent à la mise en place de responsables à la tête du troupeau vont ailleurs poursuivre leur service quand cette étape est accomplie. Petit b, les anciens en charge du troupeau peuvent être rémunérés par le troupeau, c'est-à-dire vivre de l'Évangile. 1 Timothée chapitre 5, versets 17 et 18. Pour éviter de tomber dans des distinctions de vocabulaire qui nous éloigne du sens des Écritures, il est très simple de parler de « responsable de l'Église ». On note aussi une forte relation entre les services tournés vers les hommes et l'intercession. Moïse, Exode chapitre 32, versets 11 à 14, puis 32, Nombre chapitre 16, verset 48, Samuel, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. 1 Samuel chapitre 12, verset 23. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel. Joël chapitre 2, verset 17. Conclusion, aucun service tourné vers les hommes ne peut être accompli efficacement s'il n'est précédé et accompagné d'intercession. Notons qu'il y a interdépendance des membres du corps. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 25-26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, et nous sommes appelés à avoir soin les uns des autres. À ce titre, nous pouvons parler de, entre guillemets, soigneur. Le ministère de soigneur incombe à tous les membres du corps de Christ. Quelques aspects d'un tel service. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Jacques, chapitre 5, verset 16. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Hébreux, chapitre 10, verset 24. Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi le temps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. Hébreux 3, 13. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes et par des hymnes, par des cantiques spirituels. Colossiens 3, 16. Veillez les uns sur les autres, s'exhorter mutuellement, ne nous donne pas de droit d'ingérence dans la vie des autres, mais seulement la responsabilité de l'encourager et de l'avertir en cas de danger. Passons maintenant au service dit matériel. Petit a, le service aux tables. Il est mentionné dans Actes chapitre 6, versets 1 à 6. Il est mis en place suite à des murmures provoqués après des failles dans les distributions quotidiennes aux veuves. Alors les douze ont dit, je cite, « Il ne convient pas que nous délicions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. » L'aide aux veuves, de mon point de vue, est une aide financière plutôt que, entre guillemets, la soupe populaire. Mais je ne vois rien de péjoratif au service de la soupe populaire. Bien au contraire. La francisation du mot grec donne « diakona » et ceux qui remplissent cette charge sont des diacres. Ce serait restreindre l'écriture que de cantonner les diacres aux seules tâches matérielles. Exemple, Étienne, rempli d'Esprit Saint et de sagesse, plein de grâce et de puissance, a rendu un témoignage puissant de l'Évangile. Actes chapitre 6 à 8 à chapitre 7 verset 60. Philippe en Samarie prêche le Christ. Actes chapitre 8 verset 5. Certains services s'imbriquent. Barnabas et Saul sont chargés par l'église d'Antioche d'apporter un secours aux frères habitant la Judée. Secours remis aux anciens, responsables de l'église en Judée. Actes chapitre 11 verset 28 à 30. Quelle que soit la responsabilité assumée, tous sont serviteurs, sont compagnons de service. Petit b, l'assistance financière. Dans le groupe accompagnant Jésus, on trouve entre autres Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Luc chapitre 8, verset 3. L'offrande, faite à Dieu, contribue à assurer les frais du culte ainsi que la propagation de l'Évangile. Nous en parlerons plus en détail quand nous aborderons les ressources de l'Église. Petit c, les services funèbres. Actes chapitre 5, verset 6 à 10. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Saphira tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Jean chapitre 19, 38 à 42. Joseph d'Arimathée et Nicodème prennent le corps de Jésus et l'enveloppent de bandelettes, avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Puis dépose Jésus dans un tombeau neuf tout près du lieu de la crucifixion. Pas de liturgie particulière. Toutefois, il est bon de saisir la circonstance pour prêcher l'Évangile et adresser une parole de consolation à ceux qui pleurent. De même pour les mariages. Petit dé, la distribution lors de la fraction du pain, communément appelée le repas du Seigneur ou la scène. Actes chapitre 2, verset 42 et 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20. Je lis Luc chapitre 22, verset 17. Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. La distribution est un acte technique. Il n'y a pas de notion de dignitaire chargé de cela. Autre service, petit a, l'éducation des enfants. Cette responsabilité incombe en premier aux parents. Je lis Psaume 78, versets 3 à 6, et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants, pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaisse et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Petit b, musique et chant. Jésus chantait des cantiques. Matthieu chapitre 26, verset 30. Le chant a sa place dans l'assemblée des croyants. Je lis Éphésiens chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et apportant la louange de votre cœur au Seigneur. Ce service se poursuivra dans le ciel. Je lis, il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Il y a certainement des services auxquels je n'ai pas pensé. Bien-aimé, je vous serai reconnaissant de m'en faire part. Merci. Considération finale. L'excellence est la norme pour chaque service. Avec le psalmiste, disons, « Mon œuvre est pour le roi. » Psaume 45, verset 2. Paul a donné la précision suivante. Je cite de Timothée, chapitre 2, verset 21. « Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute bonne œuvre. » L'humilité est la base du service. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Luc, chapitre 17, verset 10. « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. » Serviteurs inutiles à qui, jour après jour, une nouvelle tâche est confiée. Utile, oui, indispensable, non. Les cimetières sont remplis de gens qui se croyaient indispensables. Puissions-nous dire comme Habacuc, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Qu'il sera doux d'entendre. « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Notons bien, chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Et chose extraordinaire, Jésus a dit, je cite, « Celui qui accueille un prophète de Dieu, parce qu'il est prophète, recevra la récompense accordée à un prophète. Celui qui donne même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits parmi mes disciples, parce qu'il est mon disciple, recevra sa récompense. » Matthieu chapitre 10, verset 42. Chacun de ceux que le Seigneur a ajoutés à l'Église, donc chaque racheté, chrétien, disciple, a un ou plusieurs services à assurer. Bien-aimé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Alors, chacun à son poste, et que le Seigneur fasse reposer sur vous une puissante onction de son esprit. Amen.